reprenons notre catéchisme à la page 119, c'est ça. La page 119, après avoir donc parlé du Saint-Esprit la dernière fois. Nous avons presque achevé cette partie sur le Saint-Esprit qui correspondait au 8e article. Nous allons parler de l'Église, mais en reprenant justement la dernière question qui concerne l'Esprit-Saint, parce qu'il nous met en lien avec cette réalité mystérieuse de l'Église, qui sera l'objet de, nos prochaines rencontres, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette réalité, qui nous concerne en premier lieu, puisque nous en sommes les membres par le baptême. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire, et c'est pour ça que ça nous mènera probablement jusqu'à Noël, cette réalité de l'Église. Alors nous reprenons donc la dernière question concernant le Saint-Esprit qui nous introduit justement à ce mystère de l'Église à la page 119. Quels effets produit le Saint-Esprit dans l'Église ? Le Saint-Esprit, comme l'âme dans le corps, vivifie l'Église par sa grâce et par ses dons. Il y établit le règne de la vérité de l'amour. Il l'assiste pour qu'elle conduise sûrement ses fils dans la voie du ciel. Donc l'analogie qui est prise entre l'âme et le corps n'est pas une pieuse image donnée par un prédicateur en manque de moyens pédagogiques, c'est bien, l'analogie que prend l'Église dans son catéchisme pour nous dire, pour essayer de nous expliquer le rôle de l'Esprit-Saint par rapport à l'Église, celui d'être l'âme par rapport à son corps qu'est l'Église. Alors il faut revenir, pour comprendre ce que ça veut dire, à ce qu'est l'âme par rapport au corps. L'âme, pour Aristote, et pour tout bon philosophe réaliste, c'est ce qui donne la vie. C'est ce par quoi un corps est vivant. Propre de la mort, c'est lorsque le corps devient cadavre parce qu'il est séparé de ce principe de vie. Donc l'âme, c'est le principe de vie. C'est aussi l'âme ce qui donne la nature à ce corps qu'elle anime. C'est l'âme qui va délimiter, si je puis dire, le corps qui l'anime et qui va donner au corps sa nature. Vous savez qu'au sens philosophique, on parle d'âme aussi bien pour les réalités végétales qu'animales qu'humaines. Puisque au sens philosophique, âme désigne ce principe de vie qu'il y a dans tout être organique doué de mouvement par lui-même. La grande différence entre les minéraux et tout le reste, c'est précisément, et les vivants, c'est la présence de ce principe de vie qu'on appelle âme. Et l'âme est à la fois donc ce qui donne la vie au corps qui l'anime, au corps végétal, animal ou humain, mais il est aussi donc ce qui donne la nature de ce corps, et qui fait que ce corps est un corps humain pour nous, par exemple. Et puis c'est ce qui fait que, mon corps n'est pas, ou plutôt ce qui fait que mon âme n'est pas celle de l'autre, c'est que, mon âme a un lien singulier avec mon corps. Et c'est ça qui fait qu'on restera bien distinct, même après notre mort, avant la résurrection des corps. Notre âme ne seront pas interchangeables, parce qu'elles garderont un lien singulier avec un corps en particulier, le nôtre. Et bien analogiquement, c'est bien ce qui se passe avec l'Église, qu'on peut donc envisager comme étant un corps qui est animé, donc c'est-à-dire qui tire à la fois sa vie et son ADN, son identité, de la présence de l'Esprit-Saint. Alors, qui tire sa vie, c'est assez clair, dans la mesure où c'est à l'Esprit-Saint qu'on attribue la dispensation des dons, des mérites obtenus par le Christ au calvaire. Une fois remonté au Père, il a envoyé avec le Père l'Esprit pour que, à travers notamment les sacrements, l'Esprit nous donne, à travers les sacrements, ce que le Christ nous a mérité sur la croix, à savoir les grâces, la grâce sanctifiante. Les grâces donc sacramentelles, qui sont une modalité de cette grâce, et puis tous les secours dont nous avons besoin pour faire notre salut, ce qui inclut bien sûr aussi les dons du Saint-Esprit, et puis les vertus théologales, vertus de foi, d'espérance et de charité, mais aussi les vertus morales infuses. À tout cela, on l'attribue bien sûr à l'Esprit-Saint, on avait dit pourquoi, parce que l'Esprit-Saint étant l'amour consubstantiel du Père et du Fils, et que notre sanctification est l'effet de l'amour de Dieu, il est logique d'attribuer, d'approprier cette sanctification à l'Esprit-Saint. Il est donc logique d'approprier les moyens de sanctification que l'Église possède à l'action de l'Esprit-Saint. Voilà pourquoi dans chaque rituel, la plupart des sacrements dans le rituel manifestent expressément l'action de l'Esprit-Saint. Je vous l'avais dit la dernière fois. Donc la vie qui nous est communiquée en tant que membre du corps qu'est l'Église, nous l'est bien par son âme, qui est l'Esprit Saint, qui est au principe du don de la grâce qui nous est faite, notamment au travers des sacrements. Mais l'âme est aussi au principe, eh bien, de... L'Esprit Saint est aussi au principe, de, comme toute âme, de ce qui fait que l'Église est l'Église catholique et pas une autre. L'âme identifie, encore une fois, donne au corps d'être le corps d'une âme et pas celui d'une autre. Autrement dit, l'Esprit Saint est la cause des propriétés de l'Église, la rendant radicalement distincte de toutes les autres religions. Et ces quatre propriétés, donc, on reverra, l'unité, la sainteté, la catholicité, mais aussi l'apostolicité, ces quatre propriétés qui sont quatre notes, c'est-à-dire quatre propriétés qui démarquent radicalement l'Église catholique de toutes les autres religions, eh bien, elle les doit à la présence de l'Esprit-Saint. Vous voyez ? Alors, on verra ce que ça signifie plus en détail quand on verra cette question des notes de l'Église qui ont été voulues par Dieu pour que n'importe quel homme de bonne volonté puisse reconnaître l'Église catholique comme étant la vraie religion. Vivifier donc le Saint-Esprit comme l'âme dans le corps, vivifie donc l'Église par sa grâce, comme vous l'expliquez, donc par ses dons, donc notamment les sept dons du Saint-Esprit que nous avons reçus au baptême et en surabondance à la confirmation. Nous verrons cela quand nous verrons les sacrements. Et puis, il y établit le règne de la vérité de l'amour. Alors là, le rapport à la vérité, il est très clair. Il est celui que l'Esprit-Saint exerce par rapport au magistère. Puisque le propre de l'Église enseignante, qui est composée du pape et des évêques unis et subordonnés à lui, c'est d'être assisté de l'Esprit-Saint pour la conservation, la garde, la transmission, l'explication, la défense du dépôt révélé, contenu dans l'Écriture sainte et dans la tradition. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on lit, on le redira, eh bien, une encyclique d'un pape ou une lettre pastorale d'un évêque, eh bien, on ne lit pas simplement l'œuvre d'un tel ou d'un tel ou tel théologien. On lit l'enseignement de l'Église. Alors, qui a des conditions simples assez restrictives peut être infaillible, mais même quand cet enseignement n'est pas en soi infaillible, il doit être, en principe, écouté, reçu, avec non simplement la docilité de tout disciple par rapport à un maître, mais même avec un assentiment religieux de l'intelligence, mue par la volonté, qui fait confiance en cette autorité qui est assistée de l'Esprit-Saint, hein, qui vous écoute, m'écoute, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, dira notre Seigneur aux apôtres. Par l'action de l'Esprit-Saint, par cet Esprit qu'il envoie, par cet Esprit du Père qui vous dira toute vérité, comme il le dit. Hein. Donc, voilà pourquoi il est attribué à l'Esprit-Saint aussi ce règne de la vérité qui se manifeste par ce magistère, ce pouvoir d'enseignement qu'a reçu l'Église au travers du pape et des évêques subordonnés à lui, qui sont assistés de l'Esprit-Saint pour transmettre la révélation. Règne de la vérité et de l'amour, c'est bien sûr le règne de la charité. C'est l'amour surnaturel dont il s'agit, hein. C'est pas l'amour philanthrope qui cherche à réaliser l'unité du genre humain en dépit de l'adhésion à la vérité qui s'est fait chère par amour des hommes, Jésus lui-même. Et donc cet amour, c'est bien l'amour surnaturel, cet amour qui correspond à celui de la foi, et qui, pareil, est attribué à l'Esprit-Saint, cette charité, puisqu'encore une fois, l'Esprit-Saint étant l'amour consubstantiel du Père et du Fils, la vertu théologale nous permettant d'aimer Dieu par-dessus tout, tel qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit, et notre prochain par amour de ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, eh bien, cette vertu, on l'attribue aussi, du coup, eh bien, à l'Esprit-Saint. Vertu de charité. Il l'assiste, donc le Saint-Esprit, il l'assiste pour qu'elle conduise, donc elle, c'est l'Église, donc le Saint-Esprit assiste l'Église pour, eh bien, qu'elle conduise sûrement ses fils dans la voie du ciel. Donc, il y a aussi une assistance de l'Esprit-Saint concernant l'Église en son pouvoir de gouvernement. Parce que vous savez, comme on le redira, l'Église, elle a trois pouvoirs. Pouvoir de sanctification, communiquer la grâce sanctifiante aux âmes. Elle a le pouvoir d'enseignement, de transmettre fidèlement la révélation. Et puis, elle a le pouvoir de gouvernement, qui va s'exercer dans toutes les décisions, justement, à prendre en vue de la réception ou l'application de l'enseignement. Et pour faire fructifier la grâce reçue et donnée dans les sacrements. Donc ce gouvernement, ce pouvoir de gouvernement n'est pas étranger à la structure de l'Église telle que voulue par Dieu, et il se doit alors d'être assisté également par l'Esprit-Saint, qui va l'assister. Comme le dira le Canal Journée dans ses trois gros volumes, l'Église du incarné, il parle d'une assistance prudentielle. Voilà, pour dire que on ne peut pas directement parler d'infaillibilité dans les décisions de gouvernement prises par le pape ou les évêques unis à lui. Il n'empêche qu'il y a une certaine assistance de l'Esprit-Saint qui, au moins, empêche la destruction de l'Église par les hommes d'Église, et puis même va ordinairement un peu au-delà, en incitant ces hommes d'Église qui restent quand même libres, de prendre les bonnes décisions. Voilà. Voilà donc pour ce qui est de ce dernière question concernant l'Esprit-Saint, donc qui est, voyez, vraiment identifié comme étant l'âme de l'Église, comme ce principe de vie, faisant que l'Église n'est pas une société parmi d'autres. Elle n'est pas d'abord et avant tout une invention humaine, même si elle est visible et composée d'hommes. Eh bien, ce qui fait son ADN, son identité et ce qui fait sa vie, eh bien, c'est Dieu lui-même en la troisième personne. Vous voyez, ça c'est important de le souligner. Et c'est ce qui fait que l'Église est un mystère. Parce que même si on ne voit pas directement le Saint-Esprit quand on voit les hommes d'Église ou quand on voit les baptisés, on sait que, eh bien, ils sont animés, ou ils sont censés en tout cas être animés de cet esprit qui donne les moyens, au travers de l'Église, justement, de sauver son âme. Et celle des autres quand on est en responsabilité comme pasteur. Voyons maintenant le chapitre 10, donc, qui va parler de l'Église en général. Donc c'est assez logique, hein, il y a une suite logique à partir, comme je vous l'avais dit, le credo suit une structure trinitaire, et après qu'on ait vu donc, ce qui concerne le Saint-Esprit, et qu'on ait vu que l'action propre de l'Esprit-Saint, c'est de faire poursuivre à l'Église l'action du Christ, car l'Église n'est que, pour reprendre cette belle expression, je crois, de Bossuet, n'est que le Christ communiqué et répandu à travers le temps et l'espace. Eh bien, une fois qu'on a vu que le Christ retourné au Père envoie l'Esprit-Saint pour justement assister l'Église qu'il a fondée pour continuer à bien sa mission, eh bien, de gouvernement, d'enseignement et de sanctification, il faut voir maintenant l'Église en tant que telle. Donc chapitre 10, ça concerne donc le 9e article. Tout d'abord, l'Église en général. Que nous enseigne le 9e article ? La Sainte Église catholique, la communion des saints. Donc vous voyez, le 9e article ramasse deux réalités qui se rapportent au royaume des cieux. Alors, on verra exactement en quoi ils se distinguent. Le 9e article du Credo nous enseigne que Jésus-Christ a fondé sur la terre une société visible qui s'appelle l'Église catholique et que tous ceux qui font partie de cette Église sont en communion entre eux. Alors notez déjà une chose très importante, c'est que l'Église est définie comme une société. Ça, c'est très important, c'est un mot qui est très oublié. Et je regardais par curiosité cet après-midi en préparant ce cours la constitution dogmatique Lumen Gentium du dernier concile du Vatican sur l'Église mentionne très peu le fait que l'Église est une société. Il ne le nie pas, mais il le dit peut-être deux ou trois fois, ou quatre fois, sur un document qui est très long. Et il privilégie plutôt des images, alors celle très traditionnelle de l'Église corps mystique du Christ, mais aussi l'image de l'Église peuple de Dieu. Bon, l'Église aussi vue comme un sacrement, bon, mais ces images peuvent nous dire quelque chose de vrai du mystère de l'Église, à condition de bien les comprendre, mais elles ne remplaceront jamais une définition de l'Église. Et s'il faut définir le genre de l'Église, c'est que dans toute définition, une définition bien faite, eh bien, elle va énoncer le genre et puis l'espèce d'une chose. Par exemple, une définition bien faite de l'homme, ça va être de dire d'abord que c'est un animal, il appartient donc au genre des vivants, et plus précisément de ceux qui ont une capacité de connaissances sensibles et qui ont un corps. Et puis on va préciser rationnel, voilà, pour dire que contrairement aux animaux, ils ont quelque chose de plus, qui fait qu'ils restent animaux, mais qu'ils ne sont pas que des animaux, ils sont humains. La raison. Hein. Bon, le signe, d'après Aristote, justement, est le rire. La capacité de rire, c'est le signe visible, tangible, que l'humain a une intelligence qui comprend le comique des situations, contrairement à l'animal. Bon, ceci étant, vous voyez, une bonne définition énonce le genre et l'espèce. Si on veut définir correctement ce qu'est l'Église, il faut la définir d'abord comme une société, même si on n'a pas tout dit qu'on dit que c'est une société. Mais on ne peut pas faire l'économie de cela. Qui dit société dit ordre. C'est sûr que qui dit société ne dit pas chaos ou égalitarisme, ça dit ordre. Il y a un ordre. de partie par rapport à un principe qui est double. Hein. C'est comme dans l'armée ou comme dans n'importe quelle entreprise, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un principe directeur, voilà, qui donne l'impulsion, le chef, et puis un principe qui justement oriente cette direction, qui est le but, la fin. Il faut avoir un général, hein, si on veut que la guerre marche, enfin, si on veut avoir des chances de succès dans une guerre, et puis des objectifs précis. Voyez, si on veut que la société fonctionne et si on veut qu'elle soit efficiente. Bon. Eh bien, on le redira, mais effectivement, l'Église est une société hein, qui a un principe d'ordre, c'est le Christ lui-même. Puis un but, on le redira, bah, c'est la gloire de Dieu et le salut des âmes. La société, elle est visible. Hein. Ça, c'est très important d'insister là-dessus. Vous savez que dès le départ, les gens étant scandalisés par eh bien, les pécheurs qui se trouvent au sein de l'Église et aussi l'attitude des hommes d'Église, beaucoup, même avant le protestantisme, ont essayé de mettre dans la tête des gens que bah, y a la vraie Église et puis il y a la fausse Église. Il y a la fausse Église, celle qu'on voit qui se dit Église, et puis il y a la vraie Église, celle des purs, celle des saints, que Dieu seul connaît. Non, non, il n'y a qu'une seule Église, elle est visible. Voilà. Cela est très conforme à notre nature incarnée. De la même façon que Jésus s'est fait visible, pour une vraie humanité avec un vrai corps, de la même façon, l'institution qu'il a fondée pour continuer son œuvre, eh bien, elle est visible. Elle est donc discernable par rapport aux autres. Et on la discernera par rapport à ce qui fait son ADN. Son unité, sa sainteté, sa catholicité, son apostolicité. On verra ça plus précisément après. Donc c'est une société qui est visible, qui s'appelle l'Église catholique. Alors, Église, hein, ça vient de Ecclesia, qui veut dire assemblée, convocation, réunion. Église catholique, catholique, c'est catholicité, c'est justement, ça dit bien ce qu'elle est par rapport à toutes les autres, à savoir qu'elle est universelle. Non pas forcément, on le redira de fait, puisqu'avant que les missions soient faites, bah, l'Église était réduite à peau de chagrin en termes de nombre de membres, mais elle a vocation à être répandue sur toute la terre. Et cela correspond à l'amour universel salvifique du Christ. Le Christ a aimé tous les hommes, sans exception. Donc elle est catholique, parce que justement, elle exprime ce dessein d'amour universel de Dieu, fait homme par amour des hommes. Et que tous ceux qui font partie de cette Église sont en communion entre eux. Alors notez bien aussi deux choses, il y a deux choses à noter, c'est Église-société, puis la deuxième chose, c'est que la communion, elle est la conséquence. Elle est la conséquence de l'appartenance à la même Église qu'est l'Église catholique. Vous voyez ? Il faut souvent recentrer, entre guillemets, le débat, quand débat il y a, de savoir si on est en communion ou pas. Il faut définir ce qu'est la communion, et avant même de définir ce qu'est la communion, il faut définir ce qu'est l'appartenance à l'Église. Parce que parler de communion, si on n'est pas d'accord sur ce qui fait l'appartenance à une même religion ou à la même Église, eh bien c'est forcément voué à l'échec. Puisque la communion est la conséquence de l'appartenance à une même société. Si la société religieuse qu'est l'Église. Donc la conséquence de notre adhésion au Christ par l'appartenance à son Église, c'est que nous sommes en communion. Comme union. Une unité qui se fait entre les membres à raison de leur appartenance d'abord verticale au Christ. Après, on décrit le lien horizontal qui est entre les membres, qui partagent ce même lien vertical. Nous tournons la page. Pourquoi, après l'article qui traite du Saint-Esprit, parle-t-on immédiatement de l'Église catholique ? Moi, je l'ai un petit peu dit, mais on va le redire. Après l'article qui traite du Saint-Esprit, on parle immédiatement de l'Église catholique pour indiquer que toute la sainteté de cette Église dérive de l'Esprit-Saint, qui est la source de toute sainteté. Voilà, l'Église catholique est sainte, hein, on le redira. Et cette sainteté, qu'elle a pour mission de propager, de par sa catholicité, eh bien, elle lui vient de l'Esprit. De l'Esprit-Saint, qui a encore une fois vraiment cet amour consubstantiel du Père et du Fils. Et le signe de l'amour, le fruit de l'amour, c'est l'expression de l'amour, c'est le don. L'Esprit-Saint est le don incréé du Père et du Fils, de toute façon. Et il communique, il nous donne quoi ? Bah, ce qu'il a de plus précieux, c'est sa vie. La vie intra-trinitaire, la vie de Dieu. Par la grâce. Et la grâce, il la donne par les sacrements qui sont que l'Église catholique a mission de, eh bien, de donner aux âmes. Ce qui présuppose qu'elle enseigne Car les sacrements ne sont pas de la magie, et pour être reçus de façon sanctifiante, il faut qu'ils soient reçus dans la foi, ce qui implique la prédication. Et pour pas que ce soit l'anarchie, l'organisation de cette prédication et de cette sanctification implique un gouvernement. On retrouve encore le lien qu'il y a entre ces trois pouvoirs de sanctification, d'enseignement et de gouvernement qui correspondent à ces trois pouvoirs et à cette triple identité du Christ, qui est à la fois grand prêtre, sanctifiant, nous sanctifiant sur la croix, hein, s'offrant lui-même comme victime, et nous offrant et s'offrant avec nous comme prêtre, prophète, étant non pas simplement l'envoyé de Dieu, mais celui, non pas simplement celui qui parle de Dieu, mais celui qui est Dieu, donc il est le prophète par excellence, et puis roi, puisqu'il est celui qui a reçu cette onction dont nous parlions la dernière fois, cette onction royale, hein, qui fait que bah, oui, toute la terre lui est soumise, non pas simplement en tant que co-créateur avec le Père et l'Esprit, mais aussi en tant que rédempteur. Il a acquis un droit nouveau sur chacune de nos âmes. Et bien cette triple mission d'enseignement, de sanctification, de gouvernement qui correspond à cette mission de prophète, de prêtre et de roi, et bien elle est prolongée au travers ces trois pouvoirs de l'Église, pouvoir de gouvernement, enfin pouvoir de sanctification, d'enseignement et de gouvernement. Que l'Esprit assiste pour produire en nous la sainteté. Que veut dire ce mot « Église » ? Donc on l'a dit, mais on le redit, le mot « Église » veut dire « convocation ou réunion de personnes nombreuses ». Bon, on n'est pas très avancé, mais c'est toujours intéressant de voir l'étymologie des mots, parce que, vous voyez, le mot même « Église », veut dire que on appartient à l'Église parce qu'on y a été appelé. Voyez. On y a été appelé d'un appel surnaturel, hein, Dieu qui nous appelle tous à la sainteté, tout simplement, et qui nous donne pour cela la grâce à nous d'y répondre. Et si nous y répondons, alors nous finirons forcément par rentrer dans l'Église si nous n'y sommes pas par la famille qui nous a fait baptiser. Qui nous a convoqués ou appelés à l'Église de Jésus-Christ ? Ça tombe bien, alors on va le redire plus précisément. Toujours la page 120. Nous avons été appelés à l'Église de Jésus-Christ par une grâce particulière de Dieu. Par une grâce particulière de Dieu. Afin qu'avec la lumière de la foi et par l'observation de la loi divine, nous lui rendions le culte qui lui est dû et nous parvenions à la vie éternelle. Que quasiment tout est dit. Hein. D'abord, l'origine de notre appartenance à l'Église, c'est l'amour de Dieu. Son appel, son amour particulier pour chacun d'entre nous, qui s'est traduit par un appel spécifique avec une grâce nous permettant de correspondre à cet appel, ou en tout cas de continuer à vivre conformément eh bien, à ce baptême qu'il nous a donné gratuitement. Afin qu'avec la lumière de foi, avec la foi qu'il nous a donnée donc, en principe au baptême, par cette vertu théologale, eh bien, nous puissions croire en ce qu'il nous enseigne. Et croyant ce qu'il nous enseigne, mettre en pratique ce qu'il nous enseigne, et donc observer aussi ce qu'il nous demande. Et ainsi, nous pourrons le glorifier en nous associant à son culte. Car le culte de l'Église, c'est le culte de Jésus-Christ, qu'il poursuit à travers les membres de son corps mystique. Et que nous puissions alors parvenir à la vie éternelle. Donc deux choses à noter. D'une part, la primauté de la gloire de Dieu. On n'est pas d'abord catholique pour soi, on est catholique pour glorifier Dieu, en lui rendant le culte qui lui est dû. Et le seul culte qui lui plaît après le péché, c'est le culte que lui rend Jésus. Culte que lui rend Jésus sur la croix, rendu présent à chaque messe, par laquelle nous pouvons nous y associer. Et puis culte liturgique plus généralement par la prière de l'Église. Mais la prière de l'Église, elle est composée des psaumes, de la parole même de Dieu. Donc c'est toujours la prière de Dieu que l'homme est appelé à faire sienne, pour glorifier Dieu comme il convient. Et cela veut bien dire que le baptême, il est d'abord là, d'une certaine façon, ultimement, il est d'abord là, non pas d'abord d'action pour notre salut, mais pour qu'on puisse glorifier Dieu. Le baptême, par le caractère baptismal que nous avons reçu, nous sommes prêtres, ça c'est vrai. Mais dans le sens, non pas protestant, qui abolit la hiérarchie sacerdotale, mais dans le sens où nous avons réellement un pouvoir cultuel. celui de s'unir par le prêtre à l'offrande, d'unir l'offrande de notre propre vie, de notre propre personne, de notre propre mort, à l'offrande qu'a fait le Christ, de sa propre vie, de sa propre mort, de sa propre personne, offrande rendue présente par le prêtre à la messe. C'est pour ça qu'autrefois, on renvoyait les catéchumènes, ceux qui n'étaient pas baptisés, avant le début de la messe proprement dite, c'est-à-dire avant le début de l'offertoire. Donc le baptême, vous voyez, il donne d'abord un pouvoir cultuel, un pouvoir de glorifier Dieu en nous unissant à la liturgie divine, pour sa gloire. Ça, c'est important de remettre les choses dans l'ordre. Même si cela implique de façon concomitante et nécessaire que nous soyons alors en état d'amitié avec lui pour lui rendre ce culte, et c'est bien ce qui se passe également au baptême, avec la grâce sanctifiante qui est donnée, le péché originel est effacé et nous sommes élevés à l'amitié avec Dieu. Et cette amitié, si elle est conservée, elle débouche sur la vie céleste, le ciel, le salut. Alors, qui a déjà commencé comme la vie éternelle dès le don de la grâce. Mais cette grâce, elle s'épanouira par la vision au ciel. Vous voyez, gloire de Dieu et celui des âmes, on ne peut jamais l'opposer, bien sûr. Car on ne peut pas glorifier Dieu si on n'est pas réconcilié avec lui et qu'on n'est pas son ami, et cela nous mérite d'aller au ciel. Mais n'empêche que le but ultime, c'est la gloire de Dieu. Et au ciel, on continuera à s'associer à les liturgies de l'agneau. Reprenez l'Apocalypse, hein, c'est le livre le plus liturgique de toute la Bible. Et c'est la raison pour laquelle le caractère du baptême, comme le caractère de l'ordre, comme le caractère de la confirmation, d'une moindre mesure, mais ne sont pas effacés après la mort. Parce que ces caractères, ils se prennent d'abord de notre relation au culte que Jésus rend à son Père. Et ce culte, il se poursuivra au ciel. Voilà pourquoi nous concélébrons avec les anges à chaque messe. C'est ce que dit le prêtre dans la préface. Et voyez, à partir du moment où on va commencer à vouloir inverser les choses et à ordonner le culte, la liturgie, au salut et non pas d'abord à la gloire de Dieu, ben le risque, c'est qu'on va instrumentaliser la liturgie à des fins pratiques. Et que le but, ça va être, d'une certaine façon, ça va être l'homme. Alors, parfois avec une bonne intention, de dire, ben, faut que l'homme participe plus à la liturgie, donc il faut mieux qu'il la comprenne, il faut que la liturgie se mette à sa portée. Mais du coup, on va complètement oublier l'aspect gloire de Dieu, qui est essentiel à la liturgie. La liturgie ne fait pas partie d'abord du domaine de l'utile. La liturgie ne sert à rien. Elle sert Dieu. Et c'est tout autre chose. Elle ne sert même pas l'homme. Alors bien sûr que pour pouvoir glorifier Dieu, convenablement, il le convient de le faire avec non seulement son cœur, mais son esprit, ce qui implique de comprendre même ce qu'on fait. Il ne faut pas opposer les choses. Mais vous voyez bien que si on ne met pas la gloire de Dieu à chaque fois dans le but ultime de ce qu'est l'Église, de l'action de l'Église ou de l'action de la liturgie, eh bien, on va mettre l'homme en premier, ou même son salut en premier, mais du coup, la gloire de Dieu va passer en second, puis après en dernier, puis après on va l'oublier. Et la religion va devenir une religion profane. Sécularisée, comme on dit. Où se trouvent les membres de l'Église ? Les membres de l'Église se trouvent partis au ciel, en partie au ciel, ils forment donc l'Église triomphante. Partis au purgatoire, ils forment l'Église souffrante. Et puis parti sur la terre, et il forme l'Église militante et le catéchisme. Donc il y a une seule Église, mais en trois états. C'est ça qu'il faut comprendre. Et cet état, il se prend. Et bien, il se prend de la relation au but. Alors, ils ont. C'est bien la même Église que c'est la même société qui tient au même but. Dans les trois cas, c'est bien la gloire de Dieu qui est visée. Mais il y en a une, elle est irrémédiablement atteinte par le salut effectif au ciel. C'est ceux qui ont triomphé, justement, l'Église triomphante, ceux qui sont au ciel, tous les élus qui sont au ciel. Et on met ordinairement donc on met tous les saints, on met la Sainte Vierge, bien sûr, Jésus, les anges, voilà. Donc eux, ils ont triomphé du démon, du monde, et puis pour les humains, bah, de leur propre inclination au péché, de par cette trace du péché originel en eux. Ils ont triomphé de ce combat qu'ils ont mené. Combat qu'ils ont mené lorsqu'ils étaient sur Terre et qu'ils appartenaient à l'Église militante. Milites, c'est le militaire, celui qui combat. Voilà. Et nous sommes en combat. Donc accepter d'être chrétien, c'est accepter de combattre. Autrement, il faut pas vouloir être chrétien. C'est la raison pour laquelle, dans le rituel du baptême traditionnel, on fait une onction d'huile des catéchumènes, y compris pour les enfants, et on l'a fait donc sur le torse, en haut du torse et en haut des épaules. Sur le symbole de la force pour montrer que, eh bien, il faudra combattre. comme autrefois les gladiateurs dans les stades s'enduisaient d'huile pour mieux parer les coups, et bien avant de se faire baptiser, on se prépare déjà à cette idée du combat et on reçoit cette huile. Et puis il y a l'Église qui a fini de combattre, mais qui n'est pas encore parvenue à l'obtention du trophée, puisqu'il lui reste des peines à expier dues aux péchés qui ont été commis, qui n'ont pas été réparés sur terre. C'est l'Église souffrante, donc qui est au purgatoire, qui purge, hein, si je puis dire, ses peines dues à ses péchés, mais qui est assurée de l'obtention de la gloire. C'est pour ça qu'au purgatoire, il y a non seulement, la charité, mais il y a bien sûr aussi l'espérance. Voilà. Mais absolument, voilà. Et il y a la foi. Mais la foi, l'espérance et la charité. Alors qu'au ciel, il n'y a plus que la charité. Ni la foi, ni l'espérance. Il y a juste qu'au purgatoire, contrairement à sur terre, où il y a aussi la foi, l'espérance et la charité, au purgatoire, ils ne peuvent pas la perdre. Ils ne peuvent pas perdre la charité, ils ne peuvent pas perdre la foi, ils ne peuvent pas perdre l'espérance. Ce qui est possible sur terre, malheureusement. Oui. C'est pour ça qu'il y a une joie au purgatoire d'être sauvé, qui est sans comparaison à celle qu'on peut avoir sur terre quand on a fait une bonne confession. Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront plus jamais offenser gravement Dieu. Et même plus jamais offenser Dieu. Mais qu'ils sont là pour un temps, pour expier. Ces diverses parties de l'Église constituent-elles une seule Église ? Oui, ces diverses parties de l'Église constituent une seule Église et un seul corps, parce qu'elles ont le même chef, qui est Jésus, le même esprit qui les anime et les unit, le Saint-Esprit, et la même fin, qui est la félicité naturelle, dont les uns jouissent déjà, pour l'Église donc triomphante, et que les autres attendent, pour l'Église souffrante et puis l'Église militante. C'est très important, vous voyez. Vu comme ça, on relativise un peu nos petits malheurs dans l'Église militante, puisqu'on se dit que l'Église est plus vaste que cela, hein, et que l'unique chef de l'Église, c'est Jésus. Le chef de l'Église militante n'est que son remplaçant, son vicaire, comme le dit bien la formule consacrée, vicaire du Christ.
Excusez-moi, vous avez lu « Félicité naturelle » ?
Oui, c'est félicité naturelle. Il ne parle pas de béatitude, mais c'est dans le sens de béatitude, tout à fait. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, puisque nous avons déjà expliqué ce que ça voulait dire. À quelle partie de l'Église...
Comment ? Félicité éternelle.
Félicité éternelle, pardon, j'ai dit naturelle. Oui. Non, c'est félicité éternelle. Non, c'est félicité éternelle. Et en revanche, d'habitude, on parle plutôt de béatitude, ce qui veut dire bonheur surnaturel. Voilà. Parce que la nature de la félicité n'est pas exactement précisée. Oui, c'est félicité éternelle, pardon. Oui. Voilà. À quelle partie de l'Église se rapporte surtout ce 9e article ? Ce 9e article du Credo se rapporte surtout à l'Église militante, qui est l'Église dans laquelle nous sommes actuellement. Ce qui va nous occuper le plus, c'est de comprendre ce qu'est l'Église dans sa dimension incarnée, terrestre, dans cette partie de l'Église auquel nous appartenons, tant que nous sommes toujours dans l'Église et toujours en vie, parce qu'une fois qu'on sera mort... Même si on reste dans l'Église, on passera dans ce cas-là dans l'Église souffrante ou directement, souhaitons-le, et bien triomphante. Qu'est-ce que l'Église catholique ? Donc, voyez, vous mettez l'Église en particulier, surtout l'Église militante. C'est cela qu'on va étudier maintenant. Qu'est-ce que l'Église catholique ? L'Église catholique est la société. Donc, vous voyez, il n'y a rien à faire. Hein. On définit toujours l'Église comme la société. Hein. Qu'elle soit prise dans son global, dans ses trois états, ou simplement en parlant de l'Église de la Terre. C'est une société. L'Église catholique est la société où la réunion de tous les baptisés, mais ce n'est pas n'importe quelle réunion, pas des gens qui s'embêtent un mercredi après-midi qui se sont retrouvés sur la place du village. C'est la société où la réunion de tous les baptisés, donc c'est société ou réunion de tous les baptisés, qui, vivant sur la terre, donc faut être vivant, professent la même foi et la même loi de Jésus-Christ, participent au même sacrement et obéissent au pasteur légitime, principalement, au pontife romain. Alors on va repréciser progressivement chaque chose, mais vous voyez bien qu'il y a trois liens d'appartenance à l'Église. C'est ça qui sont les critères objectifs de la communion ecclésiale. C'est pas subjectif, ça dépend pas d'un consensus majoritaire d'un moment. On vous a admis dans le club pour un temps, on reverra ça dans 2 ans. Non. Il y a ce triple lien nécessaire pour se dire catholique, et c'est un triple lien qui est objectif. Ce triple lien, c'est la profession de la même foi, et de la même loi, donc c'est l'adhésion à la révélation qui contient ce qu'il faut croire et faire pour aller au ciel. Participer au même sacrement, reconnaître les 7 sacrements, Le mot même n'est pas à prendre de façon rituelle. Il y a toujours différents rites dans l'Église. Hein. Le mot même veut dire les mêmes signes sensibles institués par le Christ pour nous donner la grâce. C'est ça que ça veut dire. Il faut reconnaître donc les 7 sacrements que nous connaissons tous, que je ne rappelle pas, et puis obéir au pasteur légitime. Donc ça veut dire qu'il porte des pasteurs illégitimes, principalement au pontife romain, qui est la clé de voûte de cette hiérarchie. Puisque seul le pape a une juridiction, on le redira, ordinaire, plénière, immédiate, universelle sur chacun des catholiques. Il est donc radicalement placé au-dessus de tous les évêques, même réunis. Donc il y a 3 liens d'appartenance. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 1, il y en a 3. Et s'il en manque un des 3, on n'est pas catholique. Ces 3 liens sont objectifs, c'est-à-dire qu'on peut, on peut le dire extérieurement. Est-ce qu'il professe la même foi? Est-ce qu'il professe le même credo? Est-ce que, objectivement, il obéit, il reconnaît le pape comme étant son supérieur, ainsi que l'évêque dans lequel il est? Et puis, est-ce que il reconnaît les mêmes sacrements? Oui, c'est pas une question de ressenti du moment. C'est quelque chose qui est discernable extérieurement. Ces 3 liens d'appartenance, pourquoi ils ne peuvent pas être séparés? Pourquoi on ne peut pas être à moitié catholique en ayant, ou un tiers catholique en ayant l'un, ou 2 tiers catholiques en ayant 2, mais pas 3, ou complètement catholique? Soit on est catholique, soit on ne l'est pas. Pourquoi? Parce que le catholique, c'est le vrai chrétien. Il n'y a qu'un vrai christianisme au sens théologique, c'est celui du catholicisme. Et donc le vrai chrétien, c'est celui qui est uni au Christ. Et le Christ, il n'était pas trisophrène. Il n'y avait pas le personnage prophète, le personnage roi et le personnage prêtre. Il était les 3 à la fois. Il n'y a qu'un seul Christ qui est grand prêtre, il n'y a qu'un seul Christ qui est prophète, il n'y a qu'un seul Christ qui est roi. C'est le même. Donc l'union se fait au Christ par l'acceptation de ces 3 pouvoirs qu'il a communiqués à son Église. Dans un même but, la gloire de son Père et notre salut. On ne peut pas découper le Christ en 3. Le Christ continue d'agir par son Église, de gouverner par le pape et les évêques unis à lui, d'enseigner par le pape et les évêques unis à lui pour rappeler la révélation, close, et puis pour sanctifier à travers les sacrements que le pape, les évêques et les prêtres unis à lui donnent. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas séparer ces 3 pouvoirs en Jésus, et donc on ne peut pas être unis à Jésus que selon l'un des 3 pouvoirs. Soit on est uni à Jésus, on est en communion avec le Christ, soit on n'est pas en communion avec le Christ. Et la conception de communion plus ou moins entière, plus ou moins pleine, plus ou moins partielle, il est contradictoire. Soit on est uni avec le Christ, soit on n'est pas uni avec le Christ. C'est très important pour ce qu'on dira dans la façon dont on doit considérer les religions appelées à tort chrétiennes, mais non catholiques. J'ai à tort parce qu'il n'y a qu'un vrai christianisme, c'est celui du catholicisme. Mais sociologiquement, on les appelle chrétiens parce que ils professent quand même leur croyance en la divinité du Christ. Et remarquez enfin que ces 3 liens, ils ne sont pas hiérarchisés. Ils sont énumérés selon un ordre logique. Parce que si on ne croit pas, on ne va pas recevoir les sacrements, car des sacrements ne sont pas magiques, encore une fois, il faut y croire. Et pour les recevoir, il faut s'adresser justement à ceux qui les donnent, donc à la hiérarchie. Donc il y a un ordre logique. Mais ils ne sont pas hiérarchisés. Il n'y en a pas 2 qui sont mis pour toujours, et puis l'un qui pourrait de temps en temps être mis entre parenthèses. Donc voilà ces 3 liens de la communion ecclésiale qu'on peut distinguer mais qu'on ne peut pas séparer, car ils sont unis dans Jésus et ils ont un but commun. Dites précisément ce qui est nécessaire pour être membre de l'Église. Eh bien, il va reprendre, vous allez voir donc les 3 liens. Pour être membre de l'Église, il est nécessaire d'être baptisé, de croire et professer la doctrine de Jésus, de participer au même sacrement, de reconnaître le pape et les autres pasteurs légitimes de l'Église. Donc je ne vais pas commenter, à part insister sur le fait que le baptême d'eau, et ce par quoi on devient membre visible de l'Église. Hein ? Alors on distinguera l'appartenance implicite à l'Église, qui est possible pour celui qui fait un baptême de désir, justement, notamment celui qui n'est même pas reconnu comme catéchumène excellent, puisque ce n'est qu'implicitement qui désire le baptême, dans la mesure où il veut faire tout ce que Dieu veut, et dans la mesure où il accepte la grâce de Dieu, il appartient déjà à l'Église sans le savoir. Mais l'appartenance visible à l'Église, telle que Dieu la veut pour tous, elle se fait par le baptême d'eau. Car c'est le baptême d'eau qui donne le caractère permettant de recevoir les autres sacrements. et donc de rendre à Dieu le culte qui lui est dû, de le glorifier convenablement, et puis de faciliter le salut, parce que sans les sacrements, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que dans le rite traditionnel, on commence le baptême à l'extérieur de l'Église. Vous voyez, pour bien montrer que c'est par le baptême qu'on devient membre de l'Église. Vous voyez, c'est par cette réconciliation avec Dieu, par l'effacement du péché originel et par cette union au Christ, donnée par la grâce sanctifiante, que par conséquent, on devient membre de son Église. De croire et professer la doctrine de Jésus, il faut la croire, mais il faut aussi la professer. Il ne suffit pas de dire « moi je crois ». Je crois tout ce que l'Église m'enseigne. Eh, mais si je ne la professe jamais, à moins que c'est parce que je suis muet, ou complètement bègue, ou n'ayant pas l'usage de la raison, si je ne professe pas la foi, je ne peux pas me sauver. Hein. C'est pas possible. Hein. Ça, c'est... Et on doit professer sa foi souvent, tant pour la faire grandir que pour la préserver des erreurs, mais aussi parce qu'on doit témoigner de notre foi. C'est pas accessoire, c'est pas réservé à ceux qui ont la chatte ou qui ont du temps à perdre ou qui pensent avoir raison. Non, c'est un devoir. Parce que le chrétien est un petit Christ. Comment le Christ a glorifié son Père ici-bas? En le faisant connaître et aimer. Comment nous allons glorifier Dieu à la suite du Christ ici-bas? En le faisant connaître et aimer. Celui qui aura rougi de moi sur terre, je rougirai de lui devant mon Père. Si le sel s'affadit, avec quoi le salera-t-on? On ne met pas une lampe sous un boisseau, mais sur une lampadaire pour qu'il brille pour toute la maison. Vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est pas exclusivement aux apôtres qu'il le dit. C'est à tout disciple. Donc on doit professer la foi, spécialement lorsque le silence est un silence coupable. Il faudrait croire qu'on serait d'accord avec les erreurs professées contre la foi ou la morale. Ou lorsque notre silence équivaudrait à un danger pour nous, un danger spirituel pour nous, pour les autres. Ou lorsque, bien sûr, on est interrogé. Autant on n'a pas le devoir d'aller nécessairement tous les dimanches après-midi au glacis dire qu'on est chrétien, autant si jamais on est séquestré ou pris par le callback par des musulmans qui nous demandent si on est catholique, on n'a pas le choix que de dire oui. Nous n'avons pas cette discipline un peu étrange appelée taquilla qui permet de la dissimulation lorsqu'on pense qu'on ne va pas s'en sortir physiquement. Et cela vaut particulièrement pour ceux qui sont confirmés. Car là aussi, le caractère qu'on reçoit à la confirmation nous constitue soldat du Christ et nous fait un devoir particulier au titre de la gloire de Dieu, car il y a un aspect cultuel dans la profession de la foi. C'est pour ça qu'on chante le credo. Alors, on est tous convaincus qu'on est catholiques, mais pourquoi le dimanche on va chanter le credo? En principe, il n'y a pas de païen à l'Église. Oui, parce que ça glorifie Dieu de faire nôtre cette révélation qu'il nous a portée. Et c'est à ce titre, eh bien, que la confirmation a un titre plus particulier, enjoint le baptisé de professer la foi pour la gloire de Dieu, en se comportant comme véritablement témoin, apôtre et soldat du Christ. J'attire votre attention enfin sur reconnaître le pape et les autres pasteurs légitimes. Reconnaître, vous voyez. Et avant, c'était obéir. Voyez, obéissent aux pasteurs légitimes pour dire qu'est-ce que l'Église catholique, c'est la réunion de ceux qui obéissent. Et là, qu'est-ce qui est nécessaire pour être dans l'Église? Il faut reconnaître. Donc on verra que toute désobéissance au pape n'est pas forcément une cause d'exclusion de l'Église. Vous voyez, quelqu'un peut reconnaître par principe que le pape est son chef et puis lui désobéir. Ce qui est toujours mal à partir du moment où il désobéit à un ordre qui est légitime. Mais est-ce que cette désobéissance suffira pour qu'il soit hors de l'Église? Pas forcément. Et toute la question entre la désobéissance et puis le schisme. On en reparlera en temps voulu. Quels sont les pasteurs légitimes de l'Église? Les pasteurs légitimes de l'Église sont le pontife romain, c'est-à-dire le pape, qui est le pasteur universel, et les évêques. De plus, les autres prêtres, et spécialement les curés, ont sous la dépendance des évêques et du pape leur part d'office de pasteur. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ceux qui détiennent le pouvoir de gouvernement dans l'Église, le pouvoir de paître le troupeau, la suite du Christ, c'est d'abord le pape, qui est le seul pasteur universel. C'est-à-dire c'est le seul qui a reçu ce pouvoir pour toute la terre. Et les autres ne pourront exercer leur pouvoir de gouvernement qu'en dépendance du pape. au moins pour acquérir ce pouvoir. Une fois qu'ils l'ont reçu, on tient qu'ils le gardent, même si le pape meurt. Moi, quand il y aura un conclave, on serait bien embêté, il n'y aurait plus de pape, alors c'est vrai que tous les évêques ne pourraient plus gouverner leur diocèse, non? Mais pour être évêque légitime et continuer à gouverner légitimement pendant le conclave, il a fallu qu'ils aient été nommés par un pape légitime, qui leur a donné ce pouvoir de paître le troupeau sur un territoire donné qu'on appelle un diocèse, qui correspond pour nous à un département très souvent, pas tout le temps, mais voilà. Mais donc seul le pape a en soi une juridiction sur l'Église entière, et c'est pour ça qu'en période de conclave, le Saint-Siège ne nomme pas des évêques. Hein. Les nominations d'évêques, elles sont suspendues. Hein. Tant qu'il n'y a pas de pape, il n'y aura pas de... Si vous êtes à Belfort, que Belfort, le siège est vacant, que le pape meurt, tant qu'il n'y aura pas de pape, il n'y aura pas d'évêque. Hein. Vous voyez ? Bon, donc tout ça pour dire que... Ce ne sont que des hypothèses, mais tout ça pour dire... Parce que ça suppose à deux sièges vacants en même temps, c'est probablement statistiquement pas très fréquent. Mais sur l'Église universelle, ça arrive toujours. Il y a toujours des sièges vacants quand il y a des conclaves. Bon. Donc c'est le pasteur universel, donc ça veut bien dire que c'est lui qui a eu hein, cette mission du Christ de paître l'ensemble du troupeau, et les évêques ne sont pasteurs de leur troupeau qu'en dépendance de ce pasteur universel qui leur a confié une partie du troupeau, justement. Et c'est ça qui fait que, vous voyez, on le redira, mais le pape, il a... L'université de son pouvoir se prend de deux choses. D'abord, il a le pouvoir plénier en tant qu'il est le législateur suprême, donc le pouvoir législatif. Il n'y a que lui qui peut faire des lois universelles, qui s'imposent à toute l'Église. Il a le pouvoir judiciaire. Il n'y a que lui qui, en dernière instance, peut juger des cas. Alors il peut les prendre en première instance. Je veux dire, ultimement, il n'y a qu'à lui qu'on peut faire recours. C'est le dernier recours. Il n'y a pas d'autre recours. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juger le pape, parce que c'est lui qui a le pouvoir judiciaire suprême. Et puis, c'est lui aussi qui a le pouvoir donc exécutif. Alors, les évêques l'ont aussi, mais lui, il l'a pour toute l'Église. La preuve, c'est qu'il peut nommer justement des évêques, il peut les muter, il peut les renvoyer, il peut les révoquer, il peut les sanctionner éventuellement. Bon, personne ne peut faire ça avec le pape. Donc, pouvoir législatif, judiciaire, et puis exécutif, et bien, il l'a pour tous, universel. Ce qui implique qu'il a ce pouvoir, qui a un pouvoir suprême, qui le rend au-dessus de tous les autres évêques. Et puis, universel, ça veut dire donc qu'il s'adresse à tous, à tous les catholiques. C'est-à-dire que chaque catholique a pour curé le pape. Vous voyez ? Le pape n'a pas à demander à un évêque s'il veut passer dans un diocèse ou s'il veut prendre une décision pour tel diocèse. Ça se fait par courtoisie de lui demander son avis, mais en soi, il peut tout à fait prendre une décision pour tel diocèse sans passer par l'évêque. Voilà. Donc plus exactement, puisque le curé, il est en tout cas l'évêque de tous les catholiques, le pape. Et puis donc après il y a les évêques, donc ça c'est aussi les pasteurs légitimes en tant qu'ils sont unis et soumis au pape. Hein, la légitimité du pape se prend du fait qu'il ait été élu au terme d'un conclave légitimement convoqué et qu'il a accepté librement cette élection, et la légitimité des évêques se prend de leur union effective et pas simplement affective au pape, qui implique leur soumission au pape. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'ils sont soumis. Donc ça exclut, vous voyez, toutes les lignées épiscopales dissidentes ou schismatiques. Tous les évêques qui sont en dissidence avec l'Église, soit parce qu'ils appartiennent à l'Église schismatique, soit parce qu'ils ont été excommuniés par le pape, eh bien, eux ne sont pas les pasteurs légitimes. Et les évêques qui n'ont aucune peine, qui sont dans l'Église, mais qui n'ont pas reçu de mission du pape, de pouvoir sur un territoire, ou sur des personnes, et ben eux ne sont pas aussi nos pasteurs légitimes, puisqu'ils n'exercent pas cette fonction de gouvernement. Vous avez des évêques dans l'Église qui n'ont pas de fonction de gouvernement. La plupart des évêques ont un diocèse, mais il y a des évêques, ils sont dans des bureaux à Rome, et ils ont souvent à titre honorifique un ancien diocèse, mais de fait, ils n'ont pas de fidèles. Donc eux ne sont pas nos pasteurs, en ce sens qu'ils n'exercent pas leur fonction de gouvernement. La fonction de gouvernement qu'ils auraient pu avoir. Parce qu'il ne suffit pas d'être évêque pour avoir le pouvoir de gouvernement. Ça, c'est important. On le redira, mais c'est important. Quand vous êtes consacré évêque, vous devenez évêque, vous avez une aptitude à recevoir de façon stable le pouvoir de gouvernement pour une partie de l'Église. Mais ce qui vous donne le pouvoir de gouvernement, ce n'est pas le sacre. C'est le pape. Ça, c'est très important, parce qu'autrement, vous allez déchirer l'unité de l'Église... Puis après, vous allez prier pour qu'un jour elle se fasse, alors qu'elle est essentielle à ce qu'elle est, donc elle ne peut pas disparaître, cette unité, elle le sera toujours. Mais vous comprenez que si vous dites que c'est le sac qui donne le pouvoir de gouvernement, ça veut dire que tous les évêques qui sont validement évêques, notamment les orthodoxes, les orientaux, dissidents, eh bien ça veut dire qu'eux, ils auraient le pouvoir de gouvernement de l'Église catholique à l'extérieur de l'Église. Ah non, ils n'ont pas le pouvoir de gouvernement du tout, même s'ils sont vraiment évêques et que les prêtres qu'ils ordonnent sont vraiment prêtres. On en reparlera, mais voyez, tout compte, hein, les mots ne sont pas employés par hasard. Donc de plus, autres prêtres et spécialement les curés ont sous la dépendance des évêques et du pape leur part de l'office de pasteur. Donc oui, effectivement, d'une certaine façon, le curé et tous ceux qui ont un office stable, hein, mais ça vaut particulièrement pour le curé qui a un territoire justement, eh bien exerce le pouvoir de gouvernement de l'évêque sur une partie du diocèse, soit en plusieurs quartiers. Donc là aussi, il y a toujours ce rapport au territoire. La juridiction du curé, elle est liée à un territoire, qui est une parcelle du diocèse, qui est lui-même une parcelle du monde entier, que le pape a confié à cet évêque. Voilà. Et donc un curé n'a de pouvoir de gouvernement. On parlera plus de gouvernement que de juridiction pour bien dire que ce pouvoir-là, il est pas, il fait pas partie ni de l'Église enseignante, ni directement de la hiérarchie dirigeante, si je puis dire. Mais ce pouvoir de gouvernement, bah, il l'a pour autant voilà, que l'évêque lui a donné. Et donc l'évêque peut à tout moment, en soi, retirer la charge curiale à un curé. Il est libre, il est souverain. Comme le pape est souverain avec les évêques, il peut démissionner, muter. Bah, l'évêque peut faire la même chose avec ses curés. Et puis, les curés, contrairement aux évêques, n'ont pas le pouvoir législatif. Ils n'ont pas le pouvoir judiciaire. Ils n'ont que le pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire, s'ils l'ont, c'est l'ont par le droit universel. Voilà. Sous la dépendance des évêques et du pape, leur part donc de l'office des pasteurs. Donc là, c'est pour les curés. Et puis pour tous ceux qui ont une charge, parce que vous avez des curés, vous avez des vicaires, donc eux qui agissent sous la dépendance du curé. Et puis vous avez tous ceux qui sont ni curés ni vicaires, mais alors qu'ils sont chapelains, recteurs de sanctuaire. Voilà. Oui. Et puis alors, question suivante. Pourquoi dites-vous que le pontife romain est le pasteur universel de l'Église ? Oui, mais contrairement, vous voyez, le curé, c'est lié à un territoire, contrairement aux autres, recteurs et pasteurs, et ils n'ont pas les mêmes prérogatives. Le curé, il a vraiment le devoir de paître le troupeau là où il est, de s'assurer la sanctification de ses ouailles, de s'assurer que l'enseignement soit conforme à ce que dit l'Église, et ainsi de suite. Un recteur ou un chapelain, pas forcément. Ça dépend vraiment de l'aide de mission qu'il a. Et preuve en est que, par exemple, un recteur de sanctuaire ou un chapelain n'a pas forcément les registres pour les sacrements. Parce que c'est forcément ce qu'on lui demande, directement. Bien sûr, la messe et la confession, c'est toujours convenu, mais pour le reste, on ne demande pas forcément à un recteur ou un chapelain de sanctuaire d'aller marier les gens ou les enterrer. Ce n'est pas le lieu. Il n'a pas cette charge curiale. Vous voyez ? Il va s'occuper des gens qui sont de passage, en pèlerinage, par exemple. Donc c'est une charge qui est souvent moins complète et qui n'implique pas une participation aussi étroite avec la mission de l'évêque. Pourquoi dites-vous que le pontife romain est le pasteur universel de l'Église ? Je l'ai expliqué, donc ça va être assez rapide, mais on va lire la réponse. Parce que Jésus-Christ dit à Saint-Pierre, le premier pape, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera aussi lié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans le ciel. Et lui dit encore, paix mes agneaux, paix mes brebis. Donc là, le Christ, il s'adresse à Pierre individuellement. Même s'il a donné le pouvoir de remettre les péchés à tous, le soir de la résurrection, après il va s'adresser plutôt 8 jours après la résurrection. Le soir de la résurrection, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va après s'adresser à Pierre directement. Hein, par 3 fois, paix mes agneaux, paix mes brebis. Et il lui donne ce pouvoir. Donc il le distingue bien des autres. Même s'il est bien conscient de sa faiblesse, puisqu'il l'a trahi 3 fois. Et que quand il s'opposera à sa volonté de mourir pour nous, eh bien le Christ lui dira « Arrière Satan ». C'est quand même la seule phrase aussi forte et aussi violente du Christ par rapport à l'un de ses apôtres. Même par rapport à Judas, il n'a pas dit ça. Donc c'est bien une volonté divine d'ériger Pierre comme ayant le primat, qui n'est pas qu'un primat d'honneur, qui n'est pas qu'une préséance honorifique, mais qui est bien le chef de l'Église, le chef visible de l'Église, avec des prérogatives propres, donc notamment là, ce pouvoir donc, de gouvernement, qu'il exerce sur toute l'Église. Tant de sociétés d'hommes baptisés, poursuit le catéchisme, qui ne reconnaissent pas le pontife romain pour leur chef, n'appartiennent donc pas à l'Église de Jésus. C'est la question que se pose le catéchisme, et la réponse c'est non. Tous ceux qui ne reconnaissent pas le pontife romain pour leur chef n'appartiennent pas à l'Église de Jésus-Christ. Donc c'est clair. Pas en train de distinguer entre ceux qui reconnaissent simplement la primauté d'honneur du pape comme évêque de Rome, ou distinguer ceux qui auraient des sacrements valides mais qui ne reconnaissent pas le pape, ceux qui auraient un peu plus de sacrements valides mais qui ne reconnaissent toujours pas le pape, non. Mais tout le monde dans le même bloc. Là, on met qui ? Ça veut dire qu'on met les orthodoxes, on met les protestants, on met les juifs, on met les musulmans, puis on met les païens coupables. Ouais. Donc c'est très clair. Et pour la raison qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas de possibilité d'être en communion plus ou moins partielle avec le Christ. Soit on est uni au Christ, soit on ne l'est pas. Soit on est uni à son Église, et en y appartenant complètement, soit on n'y appartient pas du tout.
Vous parliez d'hommes baptisés.
Comment ?
Vous parliez d'hommes baptisés, ensuite vous avez dit les juifs, les musulmans.
Oui. Oui, mais je dis ça implique, tout à fait. Là, la question c'est, vous avez raison, c'est la question c'est tant de sociétés d'hommes baptisés qui ne reconnaissent pas le pontife romain. Est-ce qu'ils appartiennent à l'Église de Jésus-Christ ? La réponse c'est non, mais à forcerie, tous ceux qui ne sont pas baptisés. Qui ne sont coupablement pas baptisés. Donc, je veux dire, le critère qui est donné pour distinguer. Les chrétiens qui appartiennent à l'Église catholique de ceux qui n'y appartiennent pas, on peut l'étendre à tout le reste de l'humanité, qui coupablement ne reconnaît pas le pape comme le chef de la vraie religion sur Terre. Donc ça ne vaut pas que pour les baptisés non catholiques, ça vaut pour tous les humains qui coupablement ne reconnaissent pas l'autorité du pape. Eh bien, on va s'arrêter là puisque ça sonne. Est-ce qu'il y a des questions ?